Maintenant, c'est l'heure du relevé de compteurs et j'accueille Fabien Delorme. Bonjour Fabien.
Bonjour Christophe.
Alors aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de l'épopée nationale finlandaise.
Oui, c'est ça. Bonjour. Ben, bonjour à tous. Bienvenue donc dans le premier numéro de la nouvelle formule de cette chronique consacrée aux contes et aux arts de la parole. Aujourd'hui, effectivement, pour cette première chronique, je vais vous parler d'un monument de la littérature orale, hein, d'un monument de la culture finlandaise dans son ensemble, le Kalevala. Alors déjà, le Kalevala, c'est quoi ? Bah, c'est une épopée, c'est l'épopée nationale du peuple finlandais. Et alors, plus précisément, c'est un ensemble de textes, c'est un ensemble d'histoires, de mythes, de légendes, de récits héroïques qui se déroulent tous dans le pays de Kaleva, donc qui correspond à peu près au territoire de la Finlande actuelle. Et c'est un ensemble d'histoires, donc on a plusieurs histoires qui sont plus ou moins liées entre elles, hein. On a des personnages récurrents qu'on va retrouver d'une histoire à l'autre notamment, mais c'est pas une histoire unique avec vraiment un seul début et une seule fin. Il faut savoir que c'est un vieux texte, c'est un très vieux texte qui a été construit au fil du temps par de nombreux auteurs dont on a perdu la trace, et bon, ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, bon, évidemment, je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans ce texte, hein, c'est un texte qui est très long et très complexe, mais je vais quand même essayer de vous parler des passages qui sont les plus importants, les plus emblématiques. Alors, le début du texte commence par un prologue, dont je vous lirai un extrait tout à l'heure, puis il raconte la création du monde. La création du monde, dans ce texte, au départ, c'est la déesse Ilmatar, qui vogue à travers les flots cosmiques. Et puis à un moment, il y a une canne, hein, la femelle du canard, qui vient se poser sur ses genoux et qui pond un œuf. Et de cet œuf, il va y avoir des fragments de sa coquille qui vont... Des fragments de sa coquille vont sortir la terre, le ciel, le soleil, la lune, enfin le monde, quoi. Et la déesse Ilmatar, elle va aussi donner naissance à un personnage qui est très important, qu'on va retrouver tout au long du Kalevala, hein, c'est un peu le personnage principal. Et ce personnage, c'est Väinämöinen. Voilà, il s'appelle comme ça, Väinämöinen, c'est une sorte de magicien, c'est un barde qui maîtrise l'art du chant à la perfection. Et un des passages les plus emblématiques du Kalevala, hein, vraiment le passage central, celui dont on entend le plus souvent parler quand on parle de cette épopée, c'est la bataille autour du Sampo. Alors le Sampo, c'est un peu compliqué, hein, c'est un objet magique, alors on ne sait pas très bien ce que c'est une sorte de corne d'abondance, si vous voulez, c'est quelque chose qui va assurer la fortune de son propriétaire, mais de quoi il s'agit exactement, on ne sait pas trop, hein, le texte n'est pas très clair là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sources divergentes, et ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur les sources divergentes. Mais une des descriptions qui en est faite, en tout cas, c'est que le Sampo, eh bien, c'est une sorte de moulin. Et c'est un moulin qui peut produire au choix de la farine, du sel ou de l'or, à volonté, et tout ça à partir de rien. Ah, c'est pas mal, hein. Et évidemment, c'est un objet qui est très convoité par tout le monde, et notamment par Lauhi. Lauhi, c'est une sorcière qui règne sur le Pohjola. Le Pohjola, c'est la terre du mal, c'est de là que viennent le froid, la mort et toutes ces choses qui sont pas particulièrement sympathiques. Bon alors, l'histoire du Sampo, je vais commencer par le début de cet épisode. Au début, il y a notre barde dont je vous ai parlé tout à l'heure, Väinämöinen. Il a essuyé quelques déboires amoureux. Ouais, ça marche pas très fort avec les filles, hein. La dernière qu'il a rencontrée et avec qui il était sur le point de se marier, non, vraiment, ça s'est pas bien passé, hein. Bah, faut dire qu'il l'avait gagné à la suite d'un concours de chant incantatoire. Ah oui, ouais, c'est comme ça, on ne juge pas, hein, autre temps, autre mœurs. Il l'avait gagné à la suite d'un concours de chant incantatoire, et la demoiselle n'était pas du tout enchantée à l'idée de passer sa vie à côté de Väinämöinen. Elle n'était pas enchantée à tel point qu'elle a préféré se jeter dans la mer, pour s'y noyer, et devenir un saumon. Et bon, ça, mine de rien, ça fait quand même un peu mal à l'ego, hein. Mais Väinämöinen, il n'est pas du genre à se décourager pour autant, il est quand même d'une autre trempe, c'est le fils de la déesse qui a créé le monde quand même, excusez du peu. Alors, il a décidé de partir pour le Pohjola. Mais oui, si, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Pohjola, c'est la terre du mal, loin, loin, très loin, tout au nord, encore plus au nord que Dunkerque. Et cette terre, elle est contrôlée donc par la sorcière Lauhi. Et bah figurez-vous que Lauhi, elle a pas que des défauts, elle a notamment des filles à marier. Et Väinämöinen, qui est toujours un cœur à prendre, justement, il va demander à Lauhi la main d'une de ses filles. Et Lauhi a dit d'accord, mais à condition qu'il réalise un certain nombre d'épreuves magiques. Väinämöinen, il échoue, il accepte, mais il échoue. Et il doit renoncer encore à la belle. Et comme un malheur arrive jamais seul, il va se retrouver coincé là-bas, perdu au milieu des terres désolées du Pohjola, où il n'a même plus maintenant l'espoir de trouver une femme à marier. Et là, Lauhi, qui perd pas le nord, hein, sans jeu de mots, elle dit à Väinämöinen que si il lui fabrique le Sampo, le moulin magique donc qui crée de la farine, du sel ou de l'or à volonté. Donc s'il lui fabrique le Sampo, qui n'existe pas encore à ce moment-là, hein, elle l'aidera à rentrer chez lui. Et Väinämöinen, il lui répond qu'il aimerait bien, mais il peut pas. Par contre, il connaît quelqu'un, le forgeron Ilmarinen, qui lui en serait capable. Lauhi, elle est enchantée et a fait savoir à Ilmarinen que si il lui fabrique le Sampo, il pourra même épouser sa fille. Bon, ben voilà, je vais pas tout vous raconter, hein, c'est une histoire qui est assez longue, mais faut savoir quand même qu'une fois que le Sampo a été fabriqué, il va être convoité un peu par tout le monde. Et au cours d'une bataille épique au milieu de la mer, il va être englouti par les flots, alors qu'il était en mode production de sel à volonté. Et ben c'est pour ça, figurez-vous, qu'aujourd'hui encore, la mer est salée. Alors, il se passe beaucoup d'autres choses dans cette histoire. Hein. Faut savoir que c'est un recueil qui est vraiment très épais, à peu de choses près, c'est aussi épais que l'Iliade et l'Odyssée réunies. Donc c'est un très gros texte, il y a d'autres passages importants, d'autres épisodes marquants, notamment l'histoire de Lemminkainen qui va traverser le Tuonela, c'est le fleuve de la mort, pour tenter de tuer le cygne qui vit là-bas. Ouais, lui aussi il fait ça pour tenter d'épouser l'une des filles de Louhi, qui devait vraiment avoir une personnalité hors du commun, hein, toutes les filles de Louhi, pour qu'on remue le ciel et terre comme ça pour elle. Ah, il y a aussi l'histoire tragique de Kullervo. Ouais, vraiment incroyablement tragique, hein, j'exagère pas, hein. Elle est tragique au point que même Œdipe, Phèdre, Roméo et Juliette réunis, ils ont dit un jour de Kullervo, celui-là il a vraiment pas eu de bol quand même. Si, je vous jure, c'est vrai. Non, il a débuté dans l'existence en tant qu'esclave, alors que toute sa famille avait été préalablement massacrée. Et bah ça, pour tout vous dire, hein, c'est la partie la plus fun de son existence. Et c'est après que ça commence à se gâter. Bon, blague à part, c'est vraiment un très beau texte, hein, et cette histoire de Kullervo, et s'il y avait qu'un seul passage à lire dans tout le Kalevala, à mon avis, ce serait celui-là. Hein. Et pour finir sur l'histoire, le tout dernier chant du texte, il évoque l'arrivée d'une femme qui s'appelle Marjatta. C'est une vierge elle est vierge, mais elle a quand même eu un enfant. Et Väinämöinen va s'opposer à l'arrivée de cet enfant, mais en vain. L'enfant va devenir roi, et Väinämöinen va s'en aller. Alors ce chant, évidemment, c'est une allégorie de la christianisation de la région, hein, christianisme, qui va remplacer petit à petit, et non sans mal, les vieilles croyances et les vieilles légendes païennes. Alors, ce qui me plaît, moi, dans le Kalevala, dans cette histoire, c'est que c'est une histoire populaire, qui vient du peuple, vraiment. C'est une histoire sans armée, sans roi, sans chevalier. Et ben ça, c'est assez rare, hein, dans les épopées. Hein. C'est vraiment une épopée dont on sort l'origine populaire, avec des personnages qui luttent, qui essaient de survivre, qui se battent contre les éléments, contre les envahisseurs, qui échouent régulièrement, mais qui persistent et qui font du mieux qu'ils peuvent pour s'en sortir dans l'existence, quoi, avec les cartes qui leur ont été données au départ. Dans cette histoire, on raconte pas les exploits incroyables de tel ou tel roi, de tel ou tel guerrier. C'est pas un texte qui a été écrit par un conteur proche du pouvoir qui a été embelli pour rendre tel ou tel héros encore plus héroïque. Hein. Par exemple, vous avez qu'à penser à la chanson de Roland. Et ça, ce genre de texte-là, c'est quelque chose de vraiment rare. Alors, je vous ai parlé de ce texte, de Kalevala, mais d'où est-ce qu'il vient ? Qui c'est l'auteur exactement de ce texte ? Et ben là, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, il faut bien le dire. Hein. Si vous faites des recherches sur le Kalevala, que ce soit sur internet ou en librairie, vous allez trouver le nom d'un auteur, Elias Lönnrot. Elias Lönnrot, c'est un Finlandais qui a vécu au 19e siècle, plus précisément de 1802 à 1884. Et c'était à la fois un médecin, et sur son temps libre, il était folkloriste. C'est-à-dire que pendant son temps libre, il aimait aller à la rencontre des hommes et des femmes dans la campagne finlandaise qui connaissaient ces vieux textes, ces vieilles chansons, ces vieilles légendes là, qui se racontaient un peu partout. Ces histoires de création du monde, de Sampo, de bataille épique, de désespoir amoureux en pagaille. Ouais, parce que l'origine de ces histoires espère dans la nuit des temps, hein, comme on dit. Ce sont des histoires très très anciennes dont on ne connaît pas l'origine exacte, dont on ne connaît pas l'auteur, ou même plus précisément les auteurs originaux, et dont on ne connaît même pas l'âge. On ne sait pas de quand ça date, de quand est apparue la première version. Bon, ce sont des textes, des chansons précisément, qui se transmettent de bouche à oreille, qui sont racontés, qui sont chantés par ce qu'on appelle des chanteurs de runes. Ces chanteurs de runes, il en existe encore une poignée aujourd'hui, hein, mais très peu, hein, je crois qu'il en reste deux aujourd'hui, hein, et qui se transmettent leur art selon le compagnonnage. Donc ces chanteurs de runes, ce sont des gens qui apprenaient par cœur des passages entiers de l'œuvre, et qui les récitaient, qui les chantaient. Et ce qui est intéressant, c'est que la tradition autour de ces chants, elle était très particulière. On se contentait pas de réciter bêtement ces textes, hein. Je dis bêtement, mais c'est bêtement entre guillemets, parce que bon, là on parle quand même de gens qui étaient capables d'apprendre et de restituer des textes qui contenaient des milliers de vers. Alors je sais pas si vous vous rappelez, nous à l'école, comment on avait du mal déjà à apprendre le sonnet qui faisait 12 vers. Donc là, ils apprenaient vraiment des textes très longs. Donc on se contentait pas seulement de réciter des bêtement des milliers de vers, ce qui aurait déjà pourtant été un exploit en soi. Non, il y avait des vraies joutes qui étaient organisées entre chanteurs de runes, hein. C'est un peu des battles avant l'heure si vous voulez. On attendait du chanteur qu'il soit capable de raconter les histoires qu'il avait apprises, mais aussi qu'il soit capable d'improviser, de proposer d'infinies variations de l'histoire, et tout ça, tant qu'à faire, en respectant des contraintes poétiques, hein, c'est-à-dire en vers, pas forcément rimé, mais de préférence riche en allitération. C'est une spécificité de la langue finlandaise, ça. et en respectant tout un tas d'autres contraintes. Bon, je vous passe les détails puisqu'il y en a, quand même pas mal. Et les chanteurs, pendant ces confrontations, ces joutes, ils se mettaient côte à côte, main dans la main, et ils se balançaient en rythme et ils chantaient à tour de rôle sur une mélodie lancinante extrêmement répétitive avec d'infimes variations sur des vers qu'ils improvisaient en respectant certaines règles poétiques et à partir d'une histoire qu'ils connaissaient tous les deux mais sur lesquelles ils proposaient des variations. Et ils se répondaient, c'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui chantait une phrase, l'autre il réfléchissait à ce qu'il allait dire la phrase d'après et ainsi de suite. Croyez-moi, moi qui suis conteur, je vous assure que c'est pas donné à tout le monde, hein, loin de là. Alors, à quoi ça ressemblait concrètement, ces chants de runes? Je vous propose d'écouter un extrait d'un CD qui s'appelle The Kalevala Heritage. C'est un enregistrement qui a été réalisé dans les années 60, et ce que vous allez entendre, c'est la voix d'un chanteur de runes qui s'appelle Yve Lipitsa.
Vanha väinä möinen, toin oli nuori joukahainen, ajetti hyö vastakkahe. Aisapa tarttui aisan piehän, rahkis rahkehta kertui, vesi tippui vempelestä. Osvauen aisan piästä, rasvaa kiehui rahkeesta. Virkkipä nuori joukahainen, sinä herra, minä herra. Kumpi meistä tien pitääpi, virkkipä vanha Väinämöinen. Mitellä päämiekkojamme, koitella pakkonstiamme, kummalla on miekka pitempi, jolla on korttaa korkeampi. Sehän tässä tien pitääpi, mitelti hyömiekkojansa.
Voilà donc un extrait de ce CD, The Kalevala Heritage, et donc un extrait d'un chant réalisé par un chanteur de runes, Ivo Lipitsa. Et donc, Lönnrot, dont je vous parlais tout à l'heure, le médecin folkloriste, il a parcouru les campagnes finlandaises pendant une quinzaine d'années, donc vraiment un très gros travail hein, pour collecter tous ces chants, tous ces fragments épars qu'il trouvait un peu partout, et c'était pas tout de les collecter, il fallait les rassembler, il fallait corriger les incohérences, les contradictions. Et il a fait tout ce travail-là, et il a rajouté aussi lui-même des chants qu'il a écrits lui-même pour combler les lacunes qu'il voyait par endroits. Et au final, il a établi un recueil intitulé Le Kalevala, dont la version finale a été publiée en 1849. Alors, puisqu'on parle de musique, faut savoir que la musique, elle a une grande place dans cette épopée. Dans le texte, on lui donne des vertus magiques, et notamment c'est en chantant que Väinämöinen a accompli la plupart de ses exploits. Et à un moment, il a créé, à partir de la mâchoire d'un brochet et des cheveux d'une jeune fille, au cours d'un épisode que je ne vais pas vous raconter là, mais il a créé un instrument de musique qui s'appelle le kantele, et qui lui permet d'accomplir un certain nombre de prodiges. Alors le kantele, c'est un instrument de musique traditionnel qui existe vraiment, c'est un instrument qui est très répandu en Finlande, qui est vraiment un instrument populaire. Les Irlandais, ils ont leur tin whistle, les Écossais, ils ont leur cornemuse, et les Finlandais, ils ont leur kantele. Alors j'en ai un ici, là, que je suis en train de vous montrer, mais évidemment, c'est la magie de la radio, vous ne voyez rien.
On fera une photo, on mettra sur Facebook.
C'est gentil. Je vais quand même essayer de vous le décrire. En fait, c'est une sorte de lyre. Alors, avant que les puristes, les musicologues m'envoient des messages enflammés, je précise que non, effectivement, techniquement, c'est pas vraiment une lyre, c'est plutôt une sitar. Mais si vous arrivez à visualiser une lyre dans votre tête ou une harpe à 5 cordes, vous n'êtes pas très loin du compte. Alors en fait, c'est une planche en bois avec 5 cordes qui sont tendues dessus, tout simplement. Donc vous imaginez, vous avez la table basse du salon, vous accordez 5 cordes dessus et vous êtes déjà pas très loin du compte. Mais c'est un peu plus petit, quoi. Voilà, il y a 5 cordes. Et donc, contrairement à ce qu'on ferait sur une guitare ou un violon, on joue qu'une note par corde, comme une lyre ou une harpe, quoi. Et là, vous allez me dire, ça fait que 5 notes, do, ré, mi, fa, sol, même, ça fait même pas une gamme complète. On peut pas jouer de la musique avec seulement 5 notes. Si on peut, mais ce que vous avez entendu, le chant de runes, c'est une mélodie sur 5 notes. Et donc forcément, sur un instrument comme ça, on va jouer des mélodies très répétitives, très lentes, quasiment hypnotiques. Voilà. Voilà, et donc on va proposer des mélodies comme ça, très répétitives, très lentes, quasiment hypnotiques. Oui, quasiment hypnotique, et c'était bien le but, hein, quelque part. Le but, c'était de réussir à hypnotiser le public, réussir à le maintenir attentif pendant qu'on psalmodiait des vers comme ça, qu'on chantait pendant des dizaines de minutes, des fois pendant plusieurs heures. Et c'est long, hein, c'est très très difficile de réussir à maintenir l'attention de quelqu'un pendant plusieurs dizaines de minutes, rien qu'en parlant. Et nous, conteurs, on a tous nos techniques pour y arriver. Les chanteurs de runes, eux, en tout cas, certains d'entre eux, ils s'accompagnaient au camp de télé. Ou alors ils chantaient directement a cappella ces mélodies hypnotiques. Alors, pour finir sur ce texte, il y en a, j'en suis sûr, qui sont toujours pas convaincus, qui se disent « Ouais, bon, d'accord, c'est un texte qui a de l'importance pour les Finlandais, soit, on est bien content pour eux, mais moi, en quoi ça me regarde, moi, je suis pas Finlandais. » Oui, je suis sûr qu'il y en a qui pensent ça. Détrompez-vous. C'est un texte qui a eu beaucoup plus d'influence sur notre culture que vous pensez. Surtout si vous êtes amateur de fantasy d'une manière ou d'une autre. Tolkien, par exemple, vous connaissez Tolkien. Tolkien, pour la création de son Silmarillion et de son Seigneur des Anneaux, il a été énormément influencé par le Kalevala. À travers toute son œuvre, il y a des personnages, des trames, des fragments d'histoire qui sont reproduits quasiment à l'identique. Et donc ça veut dire que sans Kalevala, pas de Seigneur des Anneaux. Et sans Seigneur des Anneaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Seigneur des Anneaux, on est obligé de reconnaître que la littérature populaire, notamment tout ce qui tourne autour de la fantasy, tout ce qui gravite autour, les jeux de rôle, les jeux vidéo, le cinéma populaire, tout ça ne saurait pas exister, en tout cas pas sous la forme actuelle. Voilà, donc alors maintenant je suis sûr que je vous ai tous donné envie de lire le Kalevala, alors je vous rassure, c'est pas la peine de vous mettre au finlandais. Il y a eu une très bonne traduction française, et l'édition que je vous recommande si vous voulez lire ce texte, c'est celle qui est parue il y a quelques années dans la collection Quarto de Gallimard, c'est une traduction de Gabriel Rebourcé. Alors ce qui est intéressant avec le travail de Rebourcé, c'est qu'il a fait un gros travail très difficile, c'est toujours difficile de traduire un texte poétique, et en plus on sent qu'il a mis du cœur à l'ouvrage. Il s'est arrangé pour tenter de conserver le nombre de syllabes dans chaque vers, pour conserver les allitérations quand c'était possible, et il s'est même arrangé pour essayer de conserver un vocabulaire archaïque, comme celui qu'utilisait Lönnrot, qui utilisait une vieille langue qui était déjà ancienne à l'époque où il a écrit son texte. Et donc, Rebourcé, dans sa traduction, il s'est interdit d'utiliser des mots qui n'existaient pas dans la langue française avant le XVIIe siècle. Et mine de rien, c'est pas une mince affaire, parce que des mots qui sont dans le lexique français aujourd'hui, comme sauna ou ski par exemple, qui sont des mots d'origine finlandaise, lui, il s'est interdit de les utiliser, puisqu'ils n'existaient pas à l'époque. Croyez-moi, dans une histoire qui se passe en Finlande, des skis et des saunas, on en trouve un peu partout. Rebourcé, lui, il a préféré chercher des synonymes, des périphrases, et tout ça en conservant à chaque fois le bon nombre de syllabes. Donc c'est vraiment un sacré travail. Et en tout cas, c'est un texte qui est très bien écrit, qui est très bien traduit, qui est très poétique, mais il faut savoir que c'est un texte qui est assez difficile d'accès aussi, notamment à cause de ce lexique un peu désuet. Et les histoires sont vraiment très prenantes, très intéressantes. Ouais, certes, c'est un texte un peu difficile, mais si vous êtes prêt à faire l'effort, ça vaut le coup de tenter de le lire. Alors justement, je vais vous lire un extrait, je vais vous lire le début du prologue. Dans cette traduction de Gabriel Rebourcé, donc. Donc voilà comment commence le texte. Le désir têtu me démange. L'envie me trotte la cervelle d'aller entonner la chanson, bouche parée pour le chant mage, égrenant le dit de Majan, la rune enchantée de ma race. Les mots me fondent dans la bouche, grains de gorge, pluie de paroles, ils se ruent, torrents sur ma langue, ils s'embruinent contre mes dents. Petit frère, mon frérot d'or, mon beau compagnon de jeunesse, fais-moi compagnie pour le chant, viens-t'en me joindre au jeu des runes, car nous sommes ce jour ensemble, après maints jours en d'autres bords. Rare est le jour qui nous rassemble, le temps que nos chemins se croisent en ces confins de pauvre terre, chant de nos rois, terre piteuse. Toposa, la main dans la main. Doigts glissés par entre les doigts, pour entonner la chanson bonne et bailler la rune meilleure. La foule d'or pourra l'entendre, pour savoir, la flopée curieuse, ceux de la jeunesse levante, haute pousse, les waï belles. Ce sont les mots de l'héritage, runes tournées au baudrier du vieux Vainamoinen, sous la forge d'Ilmarinen, l'épée de Lemminkainen, l'arc de Jukahainen, au fin fond des champs de Pohja, les landes du Kalevala. Voilà donc le début de ce prologue du Kalevala dans la traduction de Gabriel Rebourcé. Bon, alors on va pas se quitter comme ça, on va faire une pause musicale, ça s'appelle Yevan Polka et c'est chanté par le groupe Loituma, un groupe finlandais pour rester dans la thématique. Et puis après, avant qu'on se quitte, je vais vous raconter une histoire, mais cette fois on va complètement quitter la Finlande. Bon, on verra ça après, à tout de suite.
Naapurista kuului se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Saliveli hikku, tukku, tappu, täppy, tippu, hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä tasko lähiästä laitaa. Salvili hipput, tupilili, tapput, tipput hiljalleen. Ievan äiti se tammaarissa virsiä veiseltä huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuhiutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kalasko lähiästä laitaa. Salvili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Helipate, 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 hella, helipate, helipate, helipampaa. Jali tuli jalla, tali tuli jalla, tili tuli, tili tuli, tili tanta. Hali tuli jalla, tili tuli talla, tili tili, tili tili, tili tili talla. Hali tuli tili tali jalla, ti jallan, tili tali, tali tali helilanta. Rimpati ralla, ripira piralla, rumpati ruppar, ripirampu. Jakka rittaa, rippari lapalan, tuli tuli lallan, tibirankku. Jatsa tsappari, vikkari lallan, tikkari dillan, tikstandulla, dipidapidalla. Ruppati rupiran, kurikan, kukka ja kirikanku. Ratsati saa ja ripidapidilla, piristandillan, tellan, doua, parikkatita. Pari, 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 pidi, 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 stendellan, doua, parilla, stendellan, deja, doua, da, vada, 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 Siellä oli ystiä soiton jälkeen, sain minä kerran sytkyteen. Tuttiko bändini ämmä se riitel ja Ieva jo alakon nyhkyteen. Minä sanon Ievalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hilahiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Muorille sano, jota tukkee suusia, ruppesin tervetä stakkoomaan. Terveenä pääset, ku korjoi luusia, määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys, haittako akkoja muhkii lähiästä laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Sen minä sano, jota purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä ittävä, minä en luovu Ievasta.
Sillä ei tätä poikoo Kainuus haittaa, sillä katossi lähiästä laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen.
Voilà donc Ievan Polka, et c'était chanté par le groupe L'Œil Touma. Alors pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Alors on va sortir complètement de la thématique, complètement de l'univers de la Finlande, mais il va quand même y avoir un point commun. Je vous ai parlé du Sampo tout à l'heure, ce moulin, cette chose, selon les versions, qui peut produire la richesse à volonté. Donc on va rester un peu dans cette thématique, vous allez voir. Bon, en tout cas, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme, et cet homme, il est paysan. Il est paysan et il est pauvre. Oh, il est pauvre, il est très pauvre. Il a pas de bête. Il a juste un champ. Il a un tout petit champ et il est obligé de vivre sur ce que produit son champ. Et puis si avec lui ça irait encore, mais il vit pas tout seul. Hein. Il y a sa femme aussi. Bah, et sa femme encore ça va parce que sa femme, elle l'aide à la maison, elle l'aide, elle travaille. Et sa femme ça va. Mais il y a le vieux aussi. Ils ont un vieux à la maison. Et alors lui, il fait rien. Il est vieux. Mais alors qu'est-ce qu'il mange ? Bon, enfin bon, faut faire avec. Hein, il est là. Et ce jour-là, l'homme, il est sorti, il est allé dans son champ et il a tiré tout seul sa charrue au milieu du champ. Et à un moment, ça a fait poc. Il y avait quelque chose de dur. Alors c'était sans doute un caillou qui était coincé sous le socle de la charrue. Alors fallait l'enlever parce que un caillou, une fois qu'il est dans le champ, après on le retrouve pour toujours, quoi. Donc il allait enlever le caillou. Il a regardé. Et c'était pas un caillou. C'était un truc en bois qui dépassait. Ça ressemblait à un coffre. Oh, il s'est dit, ça y est, un coffre, un trésor, je suis riche. Il a gratté la terre, il a enlevé toute la terre qui était autour du truc en bois, là. Et, c'était pas un coffre, hein. C'était un tonneau. Il y avait un tonneau au milieu de son champ et, il s'est dit, c'est toujours ça, hein. Je vais aller le vendre au marché. Et il est rentré chez lui avec ce tonneau, là. Et là, il y a sa femme qui le voit arriver, qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es déjà là, toi? Mais qu'est-ce que c'est que ce tonneau? Oh, je viens de le trouver dans le champ, je vais aller le vendre au marché. Sa femme, elle le regarde, elle lui dit, tu vas pas y aller dans cet état-là au marché, tu vas pas y aller, t'as vu comment t'es tout crotté, t'es tout sale, va te laver. L'homme, il est allé se laver. Puis la femme, elle a regardé le tonneau, puis elle s'est dit, c'est pareil, le tonneau, il est tout sale, il est tout plein de terre, il va jamais en tirer un bon prix, hein. Je vais le nettoyer. Elle a pris une brosse et elle a commencé à brosser le tonneau, tout autour, comme ça, en bas, en haut, et puis elle a essayé de nettoyer l'intérieur, et là, elle était un peu maladroite, hein. Elle a échappé la brosse au fond du tonneau. Elle s'est penchée au-dessus du tonneau, mais c'était un grand tonneau, on voyait rien au fond, c'était sombre, c'était... elle a pris le tonneau et elle l'a retourné, elle l'a renversé. Et là, il y a 99 brosses identiques à la première qui sont tombées du tonneau. Elle s'est dit, c'est dingue, ça, c'est... Mais il y avait déjà des brosses dans le tonneau ou quoi ? Elle a réessayé, elle a repris une brosse, et elle l'a relâchée au fond du tonneau, elle a retourné le tonneau. 99 brosses qui retombent du tonneau. Là, il y a son homme qui arrive, qui dit « Bah, c'est quoi toutes ces brosses ?» Il y a sa femme, elle dit rien, elle reprend une brosse, elle la remet dans le tonneau. 99 brosses. L'homme, il s'approche, il dit rien non plus, il prend une brosse, il la met dans le tonneau. 99 brosses, ils ont continué comme ça, il y avait tout un tas de brosses. L'homme, il dit « Bah, il est pas mal ce tonneau, en fait. On va peut-être le garder, hein. Je vais plutôt aller vendre les brosses au marché. » Et il allait au marché vendre toutes ses brosses. Et le soir, il rentre et il dit à sa femme « Ça y est, j'ai tout vendu. Et regarde, t'as vu ce que j'ai, t'as vu ce que j'ai récupéré ?» Et là, il lui montre une pièce d'or. C'était la première pièce d'or de toute sa vie. Puis elle aussi, c'était sa première pièce d'or. Elle dit « Oh, vas-y, fais voir, j'en ai jamais vu. Oh, »« Non, et c'est bon, c'est ma pièce d'or. »« Eh, vas-y, fais voir quand même, c'était mon idée aussi, les brosses. » Et puis alors là, ils commencent à se disputer. Puis la femme, elle essaie d'attraper la pièce, mais comme elle est maladroite, bah, elle l'a attrapée, mais elle l'a fait tomber. Et la pièce, elle a rebondi contre le coin de la table. Elle a rebondi sur le bord du tonneau. Et elle est tombée à l'intérieur du tonneau. Bah là, l'homme, il allait retourner le tonneau et il y a 99 pièces d'or qui sont tombées du tonneau. Et il a continué, il a fait ça 3, 4, 5 fois, il y avait un tas de pièces d'or à ses pieds, puis il dit à sa femme « Écoute, moi j'ai travaillé toute la journée, je suis fourbu, tu pourrais m'aider un peu, tiens, c'est à toi maintenant. Bah, » la femme, elle prend une pièce d'or du tas, elle la met dans le tonneau, elle retourne le tonneau, encore 99 pièces d'or, elle continue, elle fait ça 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il y a un beau tas de pièces d'or déjà dans la pièce et... Elle se retourne vers le vieux et dit « Tiens, dis donc le vieux, là, depuis le début de l'histoire, tu fais rien. Viens nous donner un coup de main, là, t'auras mérité ta soupe pour une fois. Bon, » le vieux, il s'est levé, mais c'était un vieux, il était tout vieux, tout tremblotant, il avait du mal à marcher, il avait sa canne, il s'appuyait sur ce qu'il pouvait, et puis à un moment, bah, il s'est retenu, il a basculé, il s'est retenu contre la table, mais il a continué de basculer, il s'est accroché au tonneau, mais il est tombé dans le tonneau. Et là, l'homme et la femme, bah, ils se sont regardés, et puis... Ils ont pris le tonneau, ils l'ont retourné, et là, plah, il y a le tonneau qui a éclaté, il y a 99 vieux qui en sont tombés. Ben c'est que les 99 vieux, après, il a fallu les nourrir, et puis il a fallu agrandir la maison. Et ben toutes leurs pièces d'or, elles y sont passées. Ben ils sont redevenus pauvres comme avant. Ben ouais, c'est comme ça.
Merci beaucoup, Fabien. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur ton site internet de compteur. C'est www.fabiendelorme.fr,
tout à fait.
Tout simplement. Voilà, donc on peut retrouver ton travail.